Radio de la Paix, il est 7 heures. Le journal de 7 heures. Christelle Yesso.
Soyez les bienvenus à la première édition de ce jeudi matin. Bonjour à tous. La voie permettant de relier Yopougon au plateau via le quatrième pont, officiellement ouverte à la circulation hier mercredi par le Premier ministre. Le centre d'études prospectives a procédé à sa rentrée mardi 9 janvier. Plus qu'un centre, un réservoir d'idées permettant de se prononcer sur les politiques de développement, selon le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Thiémoko Touré. Crise du carburant en Guinée, le gouvernement demande encore un peu de temps. Dans quelques instants, Francis Cassino rejoindra pour la revue des titres de la presse ivoirienne. Et nous refermerons cette édition avec l'invité de la rédaction, Père Emmanuel Wayne, secrétaire général de la conférence épiscopale, nous en dira plus sur la bénédiction hors liturgie des couples homosexuels recommandée par le pape et ce sera dans quelques minutes. C'est désormais chose faite. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a procédé à la mise en service officielle des infrastructures routières du district d'Abidjan. Depuis hier, nous assistons à la mise en circulation de la voie de contournement Y4, du tunnel de la mairie d'Abobo et de l'échangeur des Bimpé et de Makassi. Jean-Mélène Biti nous en fait le compte-rendu.
J'ouvre provisoirement cette voie à la circulation urbaine.
C'est en ces termes que le Premier ministre Robert Begré-Mambé a procédé à la mise en service des infrastructures routières qui, selon lui, viendront fluidifier la circulation dans le Grand Abidjan.
Nous ouvrons à la circulation ces belles ouvrages tout simplement pour faciliter le passage entre les communes. Les Ivoiriens qui sont à Yopougon, qui veulent aller au plateau, peuvent utiliser ce quatrième pont. Et ceux qui sont au plateau, qui veulent venir à Yopougon, peuvent utiliser ce quatrième pont. Mais nous demandons une seule chose, la prudence, parce que le chantier n'est pas encore entièrement terminé.
Lors de cette visite, le Premier ministre est revenu sur le coût total de ces projets mis en service.
Nous avons regardé 5 projets et les 5 projets, quand ils seront tous terminés, vont coûter 402 milliards de francs CFA. Voici les gros investissements que le président Alassane Ouattara a décidé de faire pour Abidjan en vue de donner au district d'Abidjan le statut d'une grande métropole moderne.
Selon Touré Moussa, président de l'Union syndicale des transporteurs et conducteurs d'Abobo, l'ouverture à la circulation de la voie express sera très bénéfique pour eux.
Ça va nous rapporter beaucoup de recettes. Auparavant, il y avait la lenteur. On avait trop de problèmes pour avoir la recette. Aujourd'hui, ça va nous permettre d'avoir la recette et puis la rapidité de nos véhicules.
Les populations pourront dès ce mercredi circuler sur la voie de contournement Y4, le tunnel de la mairie d'Abobo et l'échangeur du stade des Bimpé. Par contre, le quatrième pont, lui, sera ouvert à la circulation dès ce jeudi 11 janvier 2024.
Effectivement, le quatrième pont de Yopougon sera ouvert ce jeudi, a annoncé le Premier ministre hier. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kouakou, présent hier au cours de cette visite, est revenu sur les caractéristiques du quatrième pont, abordant également les actions qui ont été menées pour l'indemnisation des populations des sites impactés par sa construction. Il est au micro de Jean-Mélène Viti.
La réalisation de ce projet a consisté à la construction d'une plateforme, d'une chaussée en 2x3 voies, d'une voie express de 2x3 voies avec un espace qu'on a laissé au milieu de près de 30 mètres pour construire le BRT. On a construit 3 échangeurs côté Yopougon qui sont franchis par le projet que sont le boulevard principal entre le carrefour de Sikorex. Si vous passez par le carrefour Sable, vous croisez un pont et lorsque vous êtes au niveau de la brigade anti-émeute de Yopougon, vous croisez un autre pont. Il y a un passage en dessous pour aller au quartier Lokogiro. D'une plateforme de péage où il y a 24 voies, le pont fait 1 km 400. Mais en réalité, ce n'est pas un pont. C'est deux ponts qui sont collés pour partir, 4 voies pour venir. Pourquoi on a mis 4 voies? Pour réserver une voie au bus rapide. Donc, le passage de la lagune fait 792 mètres et après, on a 600 mètres côté Adjamé pour pouvoir passer au-dessus des rails. Et après, dans la seconde phase du projet, on va se raccorder d'Adjamé jusqu'au sapeur-pompier. Le projet a coûté environ 154 milliards, 112 milliards qui ont été financés par la BAD et le reste par le Trésor public ivoirien. Pour réaliser ce projet, on a déplacé 19 744 personnes qui ont été tous indemnisées. On a construit des maisons à Songon pour 406 personnes. Il y avait des maisons ici, on les a relogées à Songon. C'était une exigence de la BAD.
Vous venez d'écouter le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kouakou. Les infrastructures routières sont donc prêtes pour une circulation fluide des populations durant la période de la CAN. Du côté du tourisme également, on s'attelle à réserver un bon accueil aux étrangers. Le ministre Siondou Fofana, ministre du Tourisme et des Loisirs, a dévoilé les actions menées dans le cadre de l'organisation de cette compétition pour laisser aux visiteurs un beau souvenir de l'écosystème et des atouts touristiques du pays. C'était au cours du Gouf Talk, le rendez-vous d'échange en ligne initié par le Centre d'information et des communications gouvernementales, CICG, mardi 9 janvier. Écoutons le ministre Siondou Fofana.
Nous sommes conscients que à la veille d'une CAN, notre ministère est amené à héberger l'ensemble des participants, y compris ceux qui nous font l'amitié de venir participer à cette fête de l'Afrique, de sa jeunesse et que dit de tous les sportifs africains. Et donc c'est un peu plus de 2 millions de personnes que nous allons avoir à héberger sur toute la période de la compétition. Et donc nous nous attelons à créer les meilleures conditions pour les héberger, les recevoir et les divertir et faire en sorte que le concept abidjan est plus doux au monde, c'est vivre dans les assiettes, dans les restaurants, dans les pubs, dans les boîtes de nuit, dans les nightclubs. Donc c'est l'ensemble de toutes nos activités que nous mettons en branle en rapport avec le ministère de la Culture, le ministère de la Communication et naturellement ceux de l'artisanat. Vous comprenez que dans un tel contexte, sans oublier ceux de transport, nous allons vivre des grands moments de CAN jamais vécus sur le continent africain. Les 24 équipes qui nous font l'amitié d'être sur le territoire ivoirien vivront des émotions dont ils se rappelleront encore parce que la population ivoirienne veut vivre une CAN de l'hospitalité au sens réel du thème et nous sommes là pour accompagner et cette hospitalité doit se vivre d'abord avec notre ministère dans ses attributions et dans le déploiement de nos actions.
Vous venez d'entendre Siondou Fofana, ministre du Tourisme et des Loisirs, dans des propos recueillis par Jean-Claude Mabéa. Le Centre d'études prospectives CEP, espace de think tank permettant d'échanger sur les politiques de développement en Afrique, a procédé à sa rentrée solennelle le mardi 9 janvier à Cocody. C'était en présence du ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Thiemoko Touré, par ailleurs président du comité d'administration de ce centre, qui est revenu sur les enjeux de sa création. Suivons-le dans cet élément.
Le CEP est un think tank, en somme un réservoir d'idées, qui permet de se prononcer sur les politiques de développement, certes ivoiriens, mais surtout africains. Donc l'envergure, le champ d'action du CEP couvre non seulement la Côte d'Ivoire, mais surtout l'Afrique. Nous possédons en notre sein des expertises en recherche et en études, ce qui nous a amené durant ces deux dernières années à faire de la réflexion sur différents sujets liés à la géopolitique, à l'internationalisation, à la COVID, à l'agriculture, etc. Tous ces différents projets de réflexion ont été soumis aussi bien au gouvernement qu'aux différentes institutions qui en avaient besoin. Certaines études ont été l'objet d'exploitation, nous les avons constatées, et donc il était de bon ton, à l'entame de la nouvelle année, de venir présenter le nouveau programme d'action du CEP, ce qui a été fait. Ça sera une année très riche, qui a démarré par la remise de diplômes aux étudiants qui ont participé à la formation de l'UMF Suisse, qui est une université suisse, qui en partie et le CEP pour des formations sur le leadership. Parce que certes, il est bon de mener la réflexion, mais il est aussi bon de former ceux qui vont porter la mise en œuvre de ces réflexions à l'avenir. Et c'est ce qui justifie cette conjonction d'initiatives avec l'un de nos partenaires, UMF Suisse par ailleurs. Et nous fondons beaucoup d'espoir en cette jeunesse qui a beaucoup de choses à faire en l'avenir.
C'était Sidi Thiemoko Touré, ministre des Ressources animales et halieutiques, au micro de Jean-Claude Mabéa. Au cours de cette rencontre, de cette rentrée solennelle, une conférence inaugurale a été prononcée par l'historien en relations internationales, Dr Bangali Ngouran, sur le thème « La gouvernance politique, sécuritaire et économique dans l'espace CDAO, quel rôle pour la Côte d'Ivoire ?» L'enseignant-chercheur à l'université Jean-Laurent-Nguédé de Daloa a soutenu que la Côte d'Ivoire, en raison de son rôle de locomotive de la sous-région, devrait avoir une position d'état stratège, comme à l'ère du président Oufouébo. Écoutons les explications de Dr Bangali Ngouran.
Et aujourd'hui, si nous faisons une réflexion rapide, chacun à son niveau, nous sommes d'accord que après la gestion du dossier lié à la vague des coups d'État, on peut tout de suite se faire une idée de savoir est-ce que la Côte d'Ivoire a reculé ou progressé en termes d'influence dans ce qu'on appelait son interland historique, c'est-à-dire le Mali, le Burkina, le Niger. Si la Côte d'Ivoire a reculé, alors quelles sont les leçons qu'on tire de ce recul-là et qu'est-ce qu'il faut poser comme analyse par rapport à la gestion de la suite ou en tout cas de la suite de ce dossier parce qu'il est encore pendant. Si la Côte d'Ivoire veut gagner en influence, non seulement garder son influence au niveau de son interland immédiat ou encore son influence au niveau de l'UEMOA et avoir des intentions d'assumer bien sûr son rôle de centre géopolitique stratégique naturel de la CEDEAO, elle doit revenir à son statut ou en tout cas à sa posture d'État stratège. Parce qu'en matière de politique étrangère, qu'importe le cadre d'action de l'État, qu'il soit un cadre souverain ou un cadre collectif, le État stratège ne connaît qu'un seul critère de raisonnement, la projection de son influence.
À l'instant, les explications de Dr Bangali Ungouran, enseignant-chercheur à l'université Jean-Laurent-Guédé de Daloa sur la gouvernance politique, sécuritaire et économique dans l'espace CEDEAO. À l'international, depuis 3 semaines, la Guinée est confrontée à une pénurie d'essence, une crise qui se répercute sur les prix des produits de première nécessité. Cela fait suite à l'incendie d'un dépôt sur le port de Conakry. L'essence est en train d'être acheminée depuis les pays voisins, disent les autorités. Parlons sport à présent. Le président du comité d'organisation de la CAN, le COCAN, François-Albert Amichia, était face à la presse mercredi au Palais de la Culture de Trècheville. Il s'est exprimé sur le point des préparatifs de la compétition, les dispositifs d'accueil des délégations qui ont commencé à arriver dans le pays et leurs conditions de travail. François-Albert Amichia a surtout rassuré quant à l'engagement et la disponibilité de la Côte d'Ivoire à faire de cette 34e édition un moment de fraternité. Écoutons un extrait de ses propos.
Notre CAN, ce sont 24 équipes, 648 jours, 52 matchs, 101 arbitres, assistants, arbitres et instructeurs VAR, 10 000 volontaires, 20 000 bénévoles, 350 agents opérationnels, 1 500 000 spectateurs attendus dans les stades pour 600 millions de téléspectateurs escomptés. Notre CAN, ce sont 5 villes hôtes avec autant d'aéroports rénovés, 3 cités CAN. Mais il convient de dire que le COCAN est prêt à relever les défis qui se présentent et à surmonter les obstacles avec résilience, créativité, calme et maîtrise de soi. Notre stratégie et notre approche reposent sur le capital humain, constitué d'un vivier d'expertise nationale et internationale. À ce jour, nous pouvons affirmer que grâce aux efforts consentis par le gouvernement, toutes les infrastructures sportives sont prêtes. Au niveau des infrastructures non sportives, il faut noter que les cités CAN de Boaké, de San Pedro et de Korogo, l'hôtel président et l'hôtel parlementaire de Yamoussoukro, ainsi que le RAN Hôtel de Boaké, sont à nouveau fonctionnels après d'énormes travaux de rénovation. À Abidjan, le Sofitel Hôtel Ivoire a connu les mêmes soins. Nous avons créé des comités locaux du COCAN à l'effet de donner l'aspect festif et populaire à ce grand événement sportif.
C'était François-Albert Amichia, président du comité d'organisation de la CAN, COCAN, dans des propos recueillis par César Yao. Et c'est maintenant l'heure de la revue des titres de la presse. Ce matin, nous sommes avec Francis Cassé qui nous a rejoint. Bonjour Francis.
Bonjour Christelle, bonjour à tous. Hier, le Premier ministre a ouvert à la circulation à Abidjan plusieurs infrastructures routières. C'est par ce sujet que nous démarrons notre revue des titres de vos journaux de ce jeudi. Y4, tunnel d'Abobo, 4e pont de Yopougon, Beugré Mambé ouvre de nouveaux axes routiers. Titre à ce propos, le quotidien Les Soirs Ivoiriens. Ce sur quoi renchérit notre voie avec 4e pont, voie de contournement d'Abidjan, boulevard d'Abobo, Mambé ouvre toutes les voies à la circulation. C'est pourquoi Fraternité Matin lui dit Y4, tunnel d'Abobo, 4e pont, ça roule depuis hier. Pour l'avenir, ouverture du 4e pont de la Y4 du tunnel d'Abobo, Ouattara met fin au calvaire des Abidjanais. Avant que sur le même sujet, le patriote ne loue ainsi le chef de l'État. Y4, 4e pont, tunnel d'Abobo, échangeur des Bimpé, Makassi, sortie ouest et est d'Abidjan, Ouattara, une fierté nationale. La CAN, qui commencera dans 2 jours, a connu une étape importante hier avec la conférence de presse du président du comité d'organisation en abrégé COCAN, ce que rapportent aussi vos quotidiens d'aujourd'hui. Notamment le matin, le citant en ces termes. François Amichia rassure, le COCAN est prêt pour la grand-messe du football africain. Pareil pour le Bélier, qui le cite aussi avec CAN 2023, Albert-François Amichia, président du COCAN, la Côte d'Ivoire est prête à accueillir l'Afrique. Pendant ce temps, au sujet de la durée de la cérémonie qui ouvrira samedi prochain cette Coupe d'Afrique des Nations, l'intelligent d'Abidjan barre ainsi sa une. Samedi 13 janvier 2023, au stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe, 30 minutes pour la cérémonie d'ouverture de la CAN. Mais entre-temps, par rapport aux préparatifs de cette CAN, certaines actions menées par le gouvernement ne sont pas du goût de certains tabloïds. Cas de Génération Nouvelle avec cette manchette. Pour soigner les apparences dans le cadre de la CAN, le régime Ouattara plonge des milliers d'Ivoiriens dans le désarroi. Ainsi que le quotidien d'Abidjan avec ce titre. Démolition de commerce et d'habitation à Abidjan. Un cadre du PPACI assène sévérité au régime. Et puis, revenons sur le récent rapport de la Cour des comptes parlant d'argent public qui manque dans les caisses de l'État par rapport aux frais quant aux cartes nationales d'identité et passeports au titre de 2022. Le temps écrit, présumé détournement dans les caisses de l'État, le PPACI, Ouattara ne doit pas se taire. Enfin, terminons notre revue des titres de vos quotidiens de ce 11 janvier par ce titre de Soir Info. Côte d'Ivoire, Gbagbo et Thiam, invités au palais présidentiel. Merci et bonne lecture de vos journaux.
Merci à vous Francis Cassie pour cette revue des titres qui nous met à jour des informations qui font la une de nos journaux. Une revue que vous pourrez retrouver, chers auditeurs, au cours de l'édition de 8h. À présent, place à l'invité de la rédaction. Ce matin, nous recevons Père Emmanuel Wouiné, secrétaire général de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Avec lui, nous parlons de la bénédiction hors liturgie des couples homosexuels, recommandée par le pape François, recommandation refusée par l'Église catholique de Côte d'Ivoire. Sur le sujet, Père Emmanuel Wouiné répond aux questions de Mel Emmanuel.
Père Emmanuel Wouiné, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Le 18 décembre 2023, le Dicaster pour la doctrine de la foi a publié la déclaration Fiducia Supplicans sur la signification pastorale des bénédictions. Cette déclaration aurait entraîné la confusion au sein de l'Église catholique de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que la déclaration Fiducia Supplicans et pourquoi sème-t-elle la confusion au sein de l'Église catholique de Côte d'Ivoire?
C'est un terme latin qui veut dire confiance suppléante. Dans l'Église catholique, il y a des formes de bénédiction, il y a des catégories de bénédictions qui sont codifiées dans les livres liturgiques et qui sont connues sous le nom de bénédictions liturgiques. Maintenant, en dehors de ces bénédictions, la question qui se soulève en ce temps-ci, en ce temps qui sont les derniers, pour ainsi dire, est-ce que les bénédictions, par exemple, qui ne sont pas codifiées, qu'on appelle autrement les bénédictions spontanées, donner la bénédiction au couple homosexuel, la congrégation fait la proposition, bien entendu, avec l'approbation du pape, la possibilité, en dehors du rite liturgique, c'est-à-dire en dehors de l'Église, de donner la bénédiction au couple homosexuel, voit la possibilité de faire cela pour des gens qui sont dans ces cas-là. C'est une déclaration simple qui n'a pas une valeur contraignante. Beaucoup de conférences épiscopales dans le monde ont donné leurs avis et pour la plupart, les conférences épiscopales en tout cas ne sont pas très prêtes à autoriser ce genre de bénédiction pour l'instant.
Et c'est le cas en Côte d'Ivoire aussi.
C'est le cas en Côte d'Ivoire et donc la conférence épiscopale de Côte d'Ivoire vient de se réunir à Yamoussoukro le 27 décembre là pour donner sa position. Les conférences ne vont pas contre la signification pastorale des bénédictions qui sont données dans la déclaration puisque dans la même déclaration, il est clairement dit que le mariage que Dieu a toujours voulu et que l'Église a proclamé, soutenu, promu, c'est le mariage entre un homme et une femme. Il n'y a pas d'autre forme de mariage qui a pour but la procréation. Il n'y a pas d'autre forme de mariage en dehors de ça.
C'est ce qui vous a amené à produire au niveau de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, dont vous êtes le secrétaire général, un message demandant à tous les évêques et prêtres de Côte d'Ivoire
de s'abstenir des bénédictions de ce genre. Pour ce qui est de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, les recommandations qui sont, disons, la finale du message, parce qu'il y a deux parties. Il y a une partie explicative de la déclaration et l'autre partie, c'est une partie de recommandation de la Conférence épiscopale à l'endroit des ministres ordonnés de Côte d'Ivoire de s'abstenir absolument de donner la bénédiction aux couples homosexuels.
Et si d'aventure un prêtre catholique venait à bénir une union homosexuelle, quelles mesures ou quelles sanctions prendrait la Conférence à l'endroit de ce dernier ?
Les évêques avisent, mais il n'est pas question de bénir, en tout cas, une union homosexuelle comme si on célébrait un mariage. Ça, déjà, même le pape n'est pas d'accord. Le pape n'acceptera jamais ça. L'Église n'acceptera jamais ça. Ce dont il est question, là, c'est des possibilités que le pape a en train de demander avec la congrégation. Et ça, les gens ne sont pas pour l'instant prêts à le faire. Mais si, d'aventure, un prêtre en Côte d'Ivoire arrivait à le faire, et que c'était connu de la conférence, elle prendrait les mesures qui s'imposent.
Lesquelles mesures?
Ce n'est pas défini à l'avance, mais étant donné que le message est très clair, il y a des mesures conservatoires au niveau de l'Église ou quiconque enfreint les lois de l'Église.
Donc, le pape recommande la bénédiction des couples homosexuels hors liturgie et la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire dit non. Quelles conséquences à la longue ce refus pourra entraîner dans les relations entre l'Église catholique de Côte d'Ivoire et le Vatican?
Ça n'aura aucune conséquence parce que, comme je le disais, c'est une déclaration et c'est une simple déclaration. D'abord, la déclaration ne s'est pas adressée directement comme des lettres apostoliques ou bien des exhortations apostoliques qui viennent du pape ou c'est clairement adressé aux évêques, aux prêtres, aux religieux, religieuses, aux fidèles laïcs et aux hommes de bonne volonté, enfin quelque chose de ce genre. C'est une simple déclaration et qui n'a pas une valeur contraignante. Donc, les conférences épiscopales ont exprimé leur avis sur la question. Je crois que le pape essaiera de prendre acte de cela.
Père Emmanuel Wayna, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
C'était Père Emmanuel Wayna, secrétaire général de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, interrogé par Mel Emmanuel. Et voilà qui met fin à cette édition. Tout de suite, le rappel des titres. La voie permettant de relier Yopougon au plateau via le quatrième pont, officiellement ouverte à la circulation hier mercredi par le Premier ministre. Le centre d'études prospectives a procédé à sa rentrée mardi 9 janvier, plus qu'un centre et un réservoir d'idées permettant de se prononcer sur les politiques de développement, selon le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Thiemoko Touré. Crise du carburant en Guinée, le gouvernement demande encore un peu de temps. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. On se retrouve à 8h pour une nouvelle édition.
Radio de la paix, l'info juste et sans passion.
On le nomme Ressal au Sénégal, Jansang au Cameroun ou encore Tchatcho en Côte d'Ivoire. Phénomène très répandu en Afrique, la dépigmentation volontaire.